Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Daniel Eman de Bande à part et les frères sisters de la critique Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles, Michel Simon, Michael Simon de Positif et avec Nicolas Chaler de L'Obs. On parle ce soir des frères sisters, mais aussi de L'amour est une fête, de Climax, de La Nonne, mais également des films de Debra Granik, Mathieu Sapin et Germinal Rowe. Dans le courrier de la semaine, eh bien, Sauvage de Camille Vidal-Naquet partage quand même pas mal nos auditeurs. Pour François Zachary, un jeune auditeur de Strasbourg, je n'en peux plus des films sinistres et glauques sur l'homosexualité masculine. Racoleur et assommant, Sauvage ressemble surtout à une enquête exclusive de Bernard de la Villardière. Pour Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence, le navet se cultive toute l'année. Cette année toutefois, c'est en plein été que la récolte de navets made in France a été la plus fructueuse. Après Un couteau dans le cœur, fin juin, Le monde est à toi. Il y a un mois, voici Sauvage, premier long-métrage de Camille Vidal-Naquet. Félix Mariteau est plutôt pas mal, mais il n'arrive pas à sauver le film. Reste avec nous, Jean-Marc, ne quitte pas le studio. En revanche, François Rizzo est élogieux. Il nous dit que Félix Martineau fait une éruption pasolinienne sur l'écran. Ne soyez pas choqués par les scènes de sexe, nous écrit-il. Elles ne sont pas plus crues que dans L'inconnu du lac où 120 battements par minute. On n'est pas très loin du pickpocket de Bresson, car ce cinéaste aurait dit de sa voix profonde et sans appel « Beau film et le personnage est impur ». À propos de Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret, Pierre Cusor s'interroge, n'est pas Glenn Close et John Malkovich qui veut, rien n'est crédible et tout est pénible, pas vraiment de mise en scène, une photographie vraiment laide. J'aurais espéré plus de profondeur, de noirceur et de justesse dans le jeu. Au contraire, Pascal Hénard de Bourg-les-Valence nous écrit qu'il a aimé ce film et le verbe qui ne lasse jamais, une langue française toujours virevoltante et Cécile de France est marquante, on a sûrement, nous dit Pascal Hénard, le César de l'interprétation féminine de l'année prochaine. Ça me paraît un peu tôt quand même. Même sentiment de Christine Fink, Cécile de France passe par toute une palette de sentiments, c'est brillant. Et Édouard Baird me rappelle Jacques Brel dans Mon oncle Benjamin, un savoureux moment de cinéma. Voilà, sinon Nathan Aznar, qui a 15 ans, revient sur le film de Spike Lee, Black Landsman, pour nous dire « Je me désole de ne plus vous entendre parler des acteurs, et en particulier les deux principaux dont il faut saluer la performance que l'on peut s'attendre à voir récompensée à l'avenir. » Et puis il y a des défenseurs, Daniel, avec toi, des vieux fourneaux. Madame Michèle Pinault, qui nous dit hier soir au cinéma Le Foyer à Douvres, La Délivrande, à 5 km de Saint-Aubin-sur-Mer, une salle remplie de vieux fourneaux, hilar à la sortie, vous devriez prendre le temps, vous les critiques du masque, d'aller dans les salles tenues par des bénévoles, vous seriez sans doute moins sévère et moins injuste. Donc j'aimerais bien, Jean-Marc, que tu ailles plus souvent dans ces salles. Et puis Julie Courant, je ne dirais pas que le film était un chef-d'œuvre, nous non plus, mais j'ai ri et j'ai été ému et beaucoup apprécié de retrouver l'ambiance de la BD sur grand écran. Et puis, comme dans le courrier déjà abondant de la semaine dernière, je suis désolé Michel, là c'est Yves Palasechki qui nous dit, de Montreuil, qui nous dit qu'il n'a pas aimé Burning. Après vous avoir entendu, j'y suis allé. Et j'ai vainement attendu qu'un film commence. Du doc sur Whitney Houston, Anne et Adeline, très en colère, nous disent « Il est inadmissible et scandaleux d'entendre un critique du masque parler avec un tel mépris d'une artiste, en l'occurrence de Whitney Houston. De quel droit et pour qui se prend-il » À propos du pape François de Wenders, Arnaud Sanquer a relevé dans le film cette phrase « Le sourire est la fleur du cœur ».
C'est beau
comme du Miss France, nous dit Arnaud Sanquer. Et vous allez en prendre pour 1h36 à ce niveau avec Wim Wenders en VRP de luxe. Si un proche vous dit avoir aimé ce film de propagande, conseillez-lui gentiment la psychiatrie. Enfin, une question tout à fait opportune. Là, je vous la pose à vous, les critiques. Il y a forcément une religion, je ne la connais pas encore. C'est Thibon Charton qui nous dit, cher Masque, je m'interroge depuis que j'ai vu le palmarès de la dernière Mostra de Venise avec le dernier film des frères Cohen et le Roma d'Alfonso Cuarón qui a obtenu le Lion d'Or. Il s'agit de deux films Netflix et donc ils ne seront pas distribués, vous le savez, en salle. Alors est-ce que Le Masque et la Plume peut proposer dans certains cas des critiques de films qui sont visibles uniquement sur les plateformes vidéo en ligne au même titre que ceux qui sortent dans les salles? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors Michel, d'abord, Netflix semble mettre un peu d'eau, très peu, dans son vin.
C'est-à-dire
puisque... Le film de Cuarón sera montré dans un certain nombre de salles pendant une semaine. L'Institut Lumière, dans son festival au mois d'octobre, va montrer le film sur grand écran. Donc bon, il y aura des dérogations.
Mais la question de fond, est-ce que nous, les critiques du Masque et la Plume, on doit et on peut parler de ces films Netflix?
À mon avis, on doit en parler, mais en même temps, je trouve choquant que Venise ait brisé un peu l'attitude des grands festivals qui était de ne pas accepter en compétition des films qui ne sortiront pas en salle.
C'est pas la question de l'auditeur, hein.
Moi, je crois qu'on ne peut pas ne pas parler du dernier film des frères Cohen ou du film d'Alfonso Cuarón.
Voilà. Ou d'un film, d'une révélation. Après, le problème, c'est que c'est une offre très, très vaste. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, les supports n'ont plus trop de sens et qu'il faut, dès qu'il y a des films intéressants, il faudrait qu'on puisse en parler.
Moi, je pense que c'est très important qu'on en parle.
On en parle.
Que forcément, il va se passer quelque chose. Forcément, c'est un problème qui doit, d'une certaine façon, être un jour résolu. Et ça fait partie de ça. C'est-à-dire de donner le goût de films qu'on peut pas voir, ça me paraît très important et ça fait partie de notre rôle.
Jean-Marc ?
Oui, moi aussi je suis favorable à la chronologie des médias et qu'il y ait des lois qui protègent l'exploitation en France, mais en même temps je pense, et ça vaut aussi bien pour les festivals qui à mon avis devraient être autorisés à sélectionner des films qui ne sortent pas en salle que à la critique, de parler de films qui concernent vraiment la critique du cinéma comme le nouveau Cuarón et le nouveau film.
Donc vous pensez qu'au prochain festival de Cannes on aura des films Netflix
Le problème, c'est que la France est un pays ultra privilégié. Cuarón, à sa conférence de presse à Venise, a dit une chose qui a beaucoup frappé tous les journalistes. Il a dit, qui parmi vous, il y avait 300 personnes, a vu récemment un film d'Ozu sur grand écran? Alors, ce qu'il disait était valable pour le Mexique, les États-Unis, la Norvège, la plupart des pays. Sauf qu'au même moment, à Paris, il y avait 10 films d'Ozu que Carlotta ressortait sur grand écran dans les salles.
Ouais. Donc, nous sommes qui ont fait 30 000 entrées, qui ont été un vrai succès à récemment.
On est une exception culturelle. Alors, est-ce qu'on pourra tenir le coup face au monde entier? C'est ça le problème. Mais moi, je suis pour se battre encore.
Les Frères Sisters, le premier film, vous le savez, américain de Jacques Audiard et son premier western américain avec... Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, d'après le roman du Canadien Patrick DeWitt, un film qui a reçu le Lion d'argent et de la mise en scène à Venise, justement. Soit deux frères qui pratiquent avec le même zèle, le même métier de tueur à gages. Il y a Charlie, c'est Joaquin Phoenix, le plus violent des deux, qui a d'ailleurs zigouillé leur père, ça on peut le dire, parce que c'est quasiment au début du film. Et Ellie, c'est John C. Reilly, le plus rond, plus gourmand. Enfin, plus gourmand, il a du mal à digérer les grosses araignées vivantes, moins alcoolo, mais avec autant de sang sur les mains, ils sont payés par l'invisible Commodore, on verra son visage marmoréen qu'à la fin, j'en dis pas plus, pour tuer en Californie un chimiste après lui avoir volé la fameuse formule magique, mais brûlante, qui permet de trouver de l'or dans l'eau des rivières, lequel chimiste, c'est Riz Ahmed, c'est à coquiner avec un détective qui est joué par Jake Gyllenhaal. Bref, c'est une cavalcade de western qui se déroule dans des paysages magnifiques, dont j'ai appris d'ailleurs que c'était plutôt l'Espagne que
l'Espagne. Hein,
que le Grand Ouest, avec ce qu'il faut de scène à sensation, une patronne de bordel explosée. Évidemment, pour moi, très douloureux, ce cheval qu'un ours a défiguré, je dis bien défiguré, qu'on m'écrive pas, une amputation en temps réel, et puis une ode itinérante à la fraternité. On regrettera seulement qu'il y ait si peu de femmes dans ce film, de presque 2 heures.
Il y en a, mais elles sont
très maltraitées.
Caractéristique du western.
Je le dis parce que j'étais assez amusé de voir qu'à Venise, il a fait une grande déclaration pour expliquer que la parité n'était pas respectée. Elle n'est pas tout à fait dans ses Frères Sisters. Jean-Marc?
Moi, le film me rend très perplexe, à la fois parce que je le trouve assez inabouti, c'est-à-dire que Audiard et Bilguin ont la réputation d'être de grands storytellers,
qui sont scénaristes.
Et ils ont la réputation d'être extrêmement habiles et adroits sur la conduite des récits. Là, je trouve que les enjeux sont très très flottants. Pour moi, il y a une densité dramatique qui est vraiment très très faible, et surtout, j'arrive pas très bien à comprendre où va le film. Le film suppose que le parricide est une forme d'émancipation pour les personnages, mais finalement, le film substitue au patriarcat violent une sorte de matriarcat régressif, et la fin du film laisse totalement béat. Et je trouve que, plastiquement, je trouve que c'est surtout le chef opérateur qui a beaucoup de mérite, et le travail de repérage, parce qu'effectivement, les paysages sont magnifiques, mais je trouve pas que la mise en scène soit extrêmement forte. Je trouve qu'on est quand même beaucoup dans l'enluminure, ce qui fait que, pour moi, le film est vraiment assez peu convaincant.
Qui est un avis qui tranche, il faut dire que la presse est unanime et dithyrambique, n'est-ce pas, Michel ?
Bah, je trouve que la presse, elle n'a pas toujours raison, mais dans ce cas précis, je comprends très bien qu'on admire ce film, parce que non seulement Audiard est un des plus grands cinéastes français, c'est son 8e film, et pratiquement, il n'y a jamais eu de vrai faux pas, il a eu des films moins bons que d'autres. C'est un film qui pourrait reprendre le titre de son premier film, « Regarde les hommes tombés oui. ». C'est un peu le thème que Audiard a traité dans tous ses films. Et je trouve qu'il a réussi, j'étais stupéfait, qu'un Français, avec une équipe française, une monteuse française, un chef opéra, un musicien français, etc.,
mais
un
des comédiens exclusivement américains,
fasse un film aussi profondément américain, tout en étant différent des westerns habituels. Je pense qu'on n'a pas vu récemment un western américain de ce niveau. Moi qui admire beaucoup les frères Cohen, je trouve que c'est un film, par exemple, plus original que True Grit, pour prendre un exemple. Ce que je trouve magnifique dans le film, c'est le côté effectivement picaresque, mais en même temps avec une structure narrative passionnante, puisqu'il s'agit de deux types de couples. Il y a d'une part le frère aîné qui est plutôt protecteur et qui a envie d'une vie normale, rangée, et le frère cadet...
Quand il faut tirer, il tire, hein.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ils continuent à... Ce sont des mercenaires, ce sont des tueurs à gages, donc évidemment, ils tuent. Mais on voit que l'un a envie de se ranger, alors que l'autre est poussé par la violence. Bon, et d'autre part, il y a cet autre couple, c'est-à-dire ce détective qui suit cet homme qui a découvert une façon de trouver de l'or. Et c'est également un rapport extrêmement intéressant entre ces deux autres personnages. Donc on a deux histoires parallèles qui sont très claires. Et en plus, il y a ce sentiment de la nature, ce sentiment qui est propre au western, qu'il n'y ait pas de femme, c'est classique dans la plupart des westerns.
Sans que pour autant l'intrigue soit palpitante non plus.
C'est pas une question. Mais c'est pas. Alors, on reproche à Audiard de faire un cinéma trop classique avec des nœuds dramatiques. Là, il fait un film au contraire picaresque. On n'est pas dans le suspense. On est dans l'attachement à des personnages avec un humour qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant chez Audiard, d'ailleurs, qui est très présent. Et je trouve que c'est une très grande réussite. Je comprends très bien. C'est pas gênant pour moi que je partage mon plaisir avec tout le monde.
Daniel. Oui, presque tout le monde.
Presque tout le monde.
Non, pas le public, parce que le film démarre pas très bien.
Il démarre très mal. Mais non, moi, j'ai été touchée par, d'une part, l'ambition. Il y va, voilà, il y va. Et le film avait été présenté au Festival de Deauville récemment, et on lui avait posé la question, qu'est-ce qui vous a entraîné à faire un western, votre envie d'Amérique, ou qu'est-ce qui vous a entraîné en Amérique, votre envie de western? Et il a répondu, et j'ai adoré sa réponse, j'avais envie de tourner à la campagne.
Ouais, voilà. Il a beaucoup répondu aussi qu'il avait envie de mettre en image la fraternité aussi.
Non, mais moi, ce qui m'a vraiment touché, d'abord, rendre des tueurs à gages d'une brutalité extraordinaire aussi attachant, il faut quand même le faire, hein, parce qu'ils sont très, très attachants et très, très, très bien.
Tu trouves très attachant, toi ?
Ah oui, moi, je m'y suis attachée, surtout à Joachim. Non, ce qui m'a touchée vraiment dans ce film, qui est en effet la nature espagnole et tout à fait américaine, le son, il a une audace de diriger quand même ce quatuor formidable d'acteurs américains. Il n'y a pas une faute. Enfin, je veux dire, la musique est américaine, le paysage est américain. C'est quand même une prouesse formidable.
Même les chevaux sont américains.
Les chevaux sont américains. Et donc, ce qui m'a touché, c'est que c'est purement un film de Jacques Audiard. Voilà. Avec toute sa thématique, avec les pères, les fils, la fraternité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une once de ce film qui ne soit pas d'Audiard, et j'aime ça, c'est-à-dire ce qu'il dit toujours, c'est que on n'est pas condamné à être ce qu'on est devenu. Et je sais pas, violence rime avec résilience, et moi j'aime bien.
Nicolas.
Oui, moi je suis assez d'accord avec Michel et Daniel. C'est-à-dire que Audiard, je commençais à m'inquiéter moi de Rouillédos et surtout d'Ipan qui a eu la Palme d'Or. Moi, je trouvais qu'il arrivait aux limites de son cinéma, et je trouve que ça a fait beaucoup de bien d'aller un peu s'aérer au Far West, et notamment parce que d'une part, on retrouve exactement un film d'Audiard et d'une manière, je pense, d'autant vraiment, j'ai jamais vu aussi frontal sur la question de l'idée de tuer le père, là, il y a quand même un moment, une phrase, moi, qui m'a marqué, où il dit, un des personnages dit, tu réalises que notre père était un pourri, que c'est son sang que nous avons dans les veines. Moi, il y a le rapport au père
d'Audiard. Je pense que c'est du Jacques Audiard,
Non, mais,
autobiographique, ça.
Ouais, mais ça, mais vraiment. Et puis, l'histoire de Lénès, on sait, bon, il a raconté, notamment dans la presse, qu'il y a eu une histoire, son frère est décédé assez jeune. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, et c'est encore là. Et puis, à côté de ça, moi, je trouve que c'est un vrai beau western, Michel l'a dit, une vraie fable picaresque, avec, moi, je retrouve la tonalité des westerns un peu mélancoliques et des espèces de ces ballades des westerns des années 70, comme par exemple un film assez méconnu, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Deux hommes dans l'Ouest, de Black Edwards. Et puis, dans la tonalité, moi, je trouve qu'il y a un humour et une vision assez, j'allais dire, fataliste et désespérée de la société, qui me rappelle, et un humour assez ironique, qui me rappelle le Léon, il était une fois la Révolution. Et je trouve que dans ce mélange, il arrive à en même temps à être Audiard. Il y a aussi, ils essaient de créer une forme de société un peu utopique quand ils se retrouvent, ces deux couples. Et ce que ça raconte, je trouve, de, parce que ça se passe au moment de la ruée vers l'or, le début de la révolution industrielle, ce que ça raconte de l'impasse vers laquelle va aller ce capitalisme aussi qui se construit. Et c'est pas innocent si le personnage de Kermit, là, qui est le chimiste, il le fait jouer par Riz Ahmed, qui est un acteur britannique et, d'origine pakistanaise, qui se fait exploiter par l'intellectuel qui est Jacques Gyllenhaal. Enfin, il y a quand même, voilà, il y a plein de dimensions de lecture dans le film, à la fois sur la fable un peu morale et sur les personnages qui sont très touchants, comme on l'a dit. Tout ça me font que je trouve ce film vraiment assez réjouissant.
Les Frères Sisters, pardon, mais il y a d'autres films à voir. C'est Jacques Audiard. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public ce soir? Non. Alors, on passe à L'amour est une fête, un film de 2 heures et de Cédric Anger. La prochaine fois, je viserai le cœur. Et qui est destiné en particulier aux nostalgiques des années 80, avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche, qu'on retrouvera d'ailleurs, Gilles Lellouche, le 24 octobre dans Le Grand Bain, avec Michel Faux, qui met actuellement en scène et qui joue Fric Frac au Théâtre de Paris, Camille Daza et l'acteur-réalisateur Xavier Beauvois. Dès le début, le décor est planté, le Pigalle de 82, Franck, c'est Canet, et Serge, c'est Lellouche, ils tiennent un pipe-show, le Mirodrome, où ils produisent de petits films X, un commerce plutôt florissant, qui attise la convoitise d'un gros concurrent, joué par Michel Faux, très bien joué d'ailleurs, je trouve, par Michel Faux, lequel n'hésite pas à saccager leur établissement afin de les contraindre à bosser pour lui. Il ignore, là je révèle rien, c'est tout à fait au début du film, que nos deux loustiques sont en fait deux flics de la mondaine chargés d'infiltrer le milieu du porno, auquel évidemment ils vont prendre goût. Au générique début, on voit d'ailleurs une archive de 82 dans laquelle, j'avais oublié celle-là, Jack Lang, qui est alors ministre de la Culture, part en guerre contre l'industrie du X. Rien de très neuf, il faut le dire, dans le scénario, mais Cédric Anger a soigné la reconstitution des années 80 à la perfection. Je le disais, Michel Faux en parrain de Pigalle est très convaincant, et Xavier Beauvois en réalisateur X de second rayon, assez convaincant aussi, Nicolas.
Oui, ben je suis un peu embêté avec ce film parce que je
mais tu vas dire ce que tu en penses.
Mais oui non, mais je le trouve plus ambitieux qu'inspiré en fait. Et pendant un long moment, je me demande où je suis, c'est-à-dire que le film est vraiment le cul entre deux chaises, si je peux me permettre.
C'est élégant. Ah
oh, bravo.
C'est élégant.
Non mais il y a à la fois le côté polar un peu poisseux avec cette enquête sur le blanchiment d'argent et issu de la prostitution, et c'est qui est incarné par Guillaume Canet, qui est un personnage assez taciturne vraiment.
C'est un peu au second degré ce polar là, hein, c'est pas un polar.
Oui, mais on sent quand même qu'il veut amener une forme de, via le personnage de Canet, qui ressemble d'ailleurs pas mal au personnage qu'il jouait dans son précédent film, La prochaine fois je viserai le cœur, qui est vraiment un personnage autodestructeur, comme ça. Et à côté, il y a vraiment l'ambition de faire une comédie assez drôle et j'allais dire sexy sur une nostalgie de cette époque libertaire. Et je trouve qu'entre les deux, il y a un vrai problème d'écriture dans le film qui fait que le film est tantôt déroutant, tantôt assez lourdingue. Et j'ai compris au bout d'un moment que la vraie ambition de Anger, en fait, c'était Boogie Nights, le film de Paul Thomas Anderson, qui est un film d'il y a une quinzaine d'années, et c'est vraiment ça. C'est à la fois, il veut faire une ode à l'artisanat collectif du cinéma, d'un cinéma un peu cheap et pas forcément très bon, mais voilà, cet esprit communautaire, et en même temps, il y a une nostalgie de cette époque de jouisseurs qui voulaient vivre une vie sans tabou. Le problème, c'est que traiter ce sujet-là avec la main un peu lâche de Anger, la nostalgie de cet hédonisme vire parfois à une vision un peu macho, qui aujourd'hui je trouve assez gênante. Et heureusement, Michel.
Michel,
et Michel Faux et Beauvois amènent un peu plus de...
Oui, je partage cette gêne, parce que tu disais que le scénario était pas très brillant, mais je trouve que la mise en scène non plus, je trouve qu'il y a absolument rien. Alors évidemment, si on pense au couteau dans le cœur, c'est un faire-valoir formidable pour ce film, parce qu'à côté du couteau dans le cœur, c'est
je
un chef-d'œuvre.
Je pense absolument l'inverse.
je peux donner mon opinion. Mais c'est tout de même symptomatique que deux films de ce genre paraissent quasiment en même temps. Et moi, ça me choque même qu'on parle de libertaire à propos de l'amour du porno. Je pense pas que le porno soit libérateur. Je pense
mais
que
personne
le...
ne parle de libertaire.
Si, mais de la vie qu'ils essaient de mener. Oui, je parle du porno lui-même. Je parle de la vie qu'ils essaient
de. Différent, voilà.
Oui, mais il y a une sorte de dans le milieu critique et cinématographique branché. Une sorte de nostalgie pour le nanar, c'est-à-dire pour le film gore, le film, le western calamiteux, le film porno, etc., qu'on est en train de magnifier, alors que on est tout de même dans un mouvement actuel qui veut qu'on n'accepte pas que la femme soit un pur objet, et c'est exactement comme elle est traitée, c'est un pur objet de consommation immédiate. Le rôle des femmes est absolument honteux dans ce genre de cinéma. On essaye de se moquer de Jacques Lang par un extrait, et là, dans ce cas-là, il a parfaitement raison, c'est d'une médiocrité esthétique. Il n'y a aucun metteur en scène de porno qui arrive à la cheville des plus grands metteurs en scène de cinéma. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de gênant dans tout cela. Cela dit, le film est sauvé par des comédiens, parce que les comédiens sont excellents. D'ailleurs, on voit que la France a énormément de très bons comédiens. Guillaume Canet, je trouve, est de mieux en mieux. On va le voir dans le film d'Assayas, où il est formidable, dans le grand,
et puis dans le grand bain,
comme tu l'as dit, il est très bon. Donc c'est un très bon comédien, mais les autres sont également Gilles Lellouche, auteur par ailleurs de ce très beau Grand Bain. Tous ces gens-là sont très bons. Je ne veux pas non plus accabler ce film, mais il m'a gêné parce qu'il participe d'un snobisme contemporain que je trouve absolument
répréhensible. Je pense que Jean-Marc, tu peux répondre.
Oui, moi j'aime pas beaucoup le film, et c'est ce que Michel qualifie de snobisme contemporain que je trouve le plus intéressant dans le film. Et après, disons, 1h45 de comédie assez lourde, assez paresseuse, pas très bien filmée et pas très bien écrite. Je trouve que quand il se confronte vraiment à son sujet, qui est très nostalgique, et qui est de se dire que dans le cinéma pornographique des origines, il y avait quelque chose qui concerne absolument le cinéma, et qui est une petite épiphanie de l'enregistrement, et lorsqu'il filme un orgasme, et qu'il le filme sur la longueur, sans du tout le filmer comme dans un film porno, puisqu'on ne voit aucun organe sexuel dans le film, mais qu'il filme cette attente du moment où ça advient, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, et que le film est, en fait, c'est un film de critique de cinéma, ce qui était Cédric Arrangé à la base, et que sur cette idée que dans le cinéma porno, il y a quelque chose qui concerne l'essence du cinéma, qui est une espèce de grâce de l'enregistrement, je trouve que on peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas, le film trouve son sujet à ce moment-là, et qu'il y a quelque chose d'assez poétique sur un art du cinéma. Après, moi, je trouve que le sujet de Cédric Arrangé, qui est toujours un peu le même, qui est la tentation de la transgression, en montrant des gens qui représentent la loi, comme le gendarme du précédent film, qui est aussi un serial killer, là, le flic infiltré, qui est aussi tenté par rejoindre la vie des délinquants qui dénoncent. Je trouve qu'il était extrêmement bien traité dans le précédent film, qui était quand même une très grande réussite, et que là, c'est presque une gêne, en fait, parce que c'est pas ce qui l'intéresse, et qu'il aurait dû se recentrer sur la description de cette communauté très idéalisée de la petite famille du porno.
On voit qu'il sait pas comment terminer son film, hein, oui. Parce que toute dernière partie, c'est un épilogue... peu sans, j'ose pas dire sans queue ni tête, mais un peu. Daniel.
Non, moi franchement, la nostalgie du porno, j'ai du mal.
Pourtant, tu m'as souvent dit que.
Oui, mais d'accord. Enfin, c'est une époque révolue.
Oui. Non. Mais t'es très, très.
Mais oui, mais bien sûr. Mais
consommatrice,
bien sûr,
hein.
Même actrice. N'importe quoi. Mais je trouve que la façon dont les femmes sont traitées dans ce film est carrément dégradante. Parce que effectivement, elles gagnent leur vie, hein, d'accord, dans ces films. Mais c'est qu'elles aiment ça, les coquines.
Mais, oh, tu trouves que c'est...
Si. Elles y prennent goût, voilà. Et donc, j'ai été tellement énervée par ce traitement des femmes que vraiment, j'avais un petit peu de mal à rester dans ce film. Et puis, les acteurs sont totalement formidables, tous. Il demande Michel Faux, tout
Michel
grandiose.
Faux, dans la période, dans sa voilà. Maison de campagne.
Voilà, il est grandiose. Il est grandiose.
Il est théâtral. Hein.
Mais Gilles Lellouch et Guillaume Canet, peroxydé, oui, bon. Ils se régalent, voilà. C'est des acteurs qui se régalent d'être dans ce film. Et j'aime voir les acteurs se régaler. Mais sur le fond, je suis pas d'accord.
Je le dirais pas autant de Climax. C'est L'amour est une fête et c'est donc Cédric Arrangé. Donc, on en vient à Climax, qui est un film interdit aux moins de 16 ans. de l'insaisissable et imprévisible réalisateur de Love, Gaspard Noé, qui était présenté, je vous le rappelle, à la quinzaine des réalisateurs, avec Sofia Boutella et surtout des amateurs, dont Romain Guillermic et Souheila Yacoub. Alors, avant de s'envoler pour les États-Unis et après avoir répété dans un lieu tout à fait improbable, en plan séquence et en bordure de forêt, un groupe de danseurs urbains s'offre une petite fête pour décompresser, comme on le fait souvent. Mais il n'y avait pas que des oranges dans la sangria. Il y a aussi de l'acide et la fête va tourner donc à la danse et à la transe psychédélique et aussi, il faut le dire, au film d'horreur rythmé par des cartons fluo, comme on les voit parfois chez Godard, où on peut lire des slogans. J'en ai noté deux, évidemment, qui est « Vivre est une impossibilité collective ».
Bien vu.
Je vous demande surtout de la méditer. Et aussi, qui est à mon avis meilleur dans le genre, c'est « Mourir est une expérience extraordinaire ». Et effectivement, c'est une chose à laquelle je n'aurais pas forcément...
Pardon ? Écrit à l'envers.
Écrit à l'envers. Alors, ça a été tourné en 15 jours. Ça se voit, hein. Et ça dure 1h35. Mais certains aiment ça. J'ai vu ça cette semaine, ouais. N'est-ce pas, Jean-Marc?
Alors moi, j'aime pas beaucoup, non. Même si dans mon journal, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qui s'écrit dans mon journal.
Parce que c'était ce que
le journal a défendu
que les
le
Arocs
film,
ont ouais, complètement. Soutenu cette semaine.
Moi, je n'aime le film que dans ses 20 premières minutes, où le film se repose vraiment sur la grâce de ses interprètes. Ouais, là, il y a deux scènes de street dance qui sont très impressionnantes. Ouais. Et le problème du film, c'est qu'au bout de ces 20 minutes, plutôt que de puiser ce qu'il y a de plus impressionnant chez ses interprètes, il annihile ce qui fait leur caractère d'exception pour les attirer dans les raies de son fantasmatique déjà qu'on connaît un peu par cœur, qui est très codé, qui consiste à toujours refaire un tableau de Jérôme Bosch. Et là, je trouve que plus le film avance et plus à la fois je trouve qu'il n'a pas complètement les moyens formalistes de la transe qu'il vise, c'est-à-dire que je trouve que c'est très répétitif formellement et pas très impressionnant. Et en plus, il y a vraiment un fond de puritanisme chez Gaspard Noé qui a eu la réputation un peu sulfureuse.
T'as pas ça du puritanisme,
oui,
toi?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il filme toujours un châtiment, il filme toujours une bascule dans l'enfer, et il aurait pu filmer des corps glorieux dans une sorte d'hédonisme, parce qu'il y a vraiment des scènes assez charmantes, pas seulement quand il danse, mais même lorsqu'il interviewe ses interprètes. Je trouve que ils sont tous extrêmement séduisants, il y a quelque chose d'assez joyeux, et tout à coup, il y a une espèce de coup de bâton sur les doigts et de punition quand même, de bascule dans l'horreur avec un gimmick scénaristique quand même très très faible, quoi. Qui a mis des acides dans la sangria? Et tout ça pour quelque chose comme ça d'un peu horrifique qui me semble totalement factice.
Daniel, toi t'as eu aussi une période sangria très forte, hein?
Non, je suis désolée, je me suis toujours méfiée de la sangria.
C'est vrai?
Mais pas des acides.
Non, sacré Gaspard. Alors, effectivement, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ne pas se pâmer devant Gaspard Noé, on est ringard. Bon, eh bien, comme il dit, vivre est une impossibilité collective.
Et pour toi aussi, tu l'as noté.
Bah oui, et pour moi, me pâmer devant Noé est une impossibilité personnelle. Bon, alors, il y a effectivement complètement deux films. L'audition des danseurs.
Mais le premier est très, mais le premier, très bref,
non,
pardon.
Mais c'est ça, il est formidable.
C'est un préambule.
Non, mais c'est extraordinaire. Ah oui. Ce plan séquence de danse, c'est un appétit de cinéma, c'est une virtuosité, c'est une énergie créative. C'est magnifique. Alors effectivement, on bascule dans l'enfer. Et cet enfer est d'un ennui. On se déloque, on donne des coups de pied dans le ventre des femmes enceintes, avec des naïvetés.
Ce qu'il faut éviter de faire, enfin.
C'est pas bon. C'est pas bon pour le bébé.
Ni pour la maman.
Alors, avec des naïvetés soudaines, c'est-à-dire, il y a un petit garçon qui est là, évidemment, c'est pas les petits garçons, alors on l'enferme dans le local électrique. Et la maman secoue des clés très brillantes. Va-t-elle perdre les clés? Non, mais franchement, ça devient débile, quoi. Ça devient débile, et cet enfer n'a plus aucun intérêt. Et vraiment, la césure totale entre les deux parties m'a abasourdi.
Michel?
Oui, ben, d'abord, j'admire que vous ayez trouvé des phrases à citer, parce que moi, je me rappelle de ce film comme une sorte de...
Oui, t'as pas cherché qu'on le faisait pour rigoler, hein.
J'ai compris, elles sont écrites en très gros, hein.
J'ai bien compris, mais vous avez tout de même trouvé du texte. Moi, j'ai vu un clip pop et orgiaque pendant une heure et demie, avec de la musique électronique non-stop.
Love était plus orgiaque que ça, hein.
Oui, mais c'est vrai que Gaspard Noé, moi, j'avais vraiment apprécié son premier film. C'est un peu comme le titre du film d'Audiard, Seul contre tous. C'était presque un programme. Et Noé est arrivé aujourd'hui à être un peu, bien qu'il soit honoré à chaque fois au Festival de Cannes, soit en compétition, soit dans des sections parallèles. Enfin, il est incontournable.
Là, c'était la quinzaine, hein.
Oui, mais il est toujours à Cannes. C'est une sorte de, d'incontournable, de classique, que personne ne peut écarter.
Comme Jacques Audiard, quoi.
Comme d'autres grands cinéastes que je ne citerai pas, que l'on écarte. Mais lui, il est jamais écarté. Et je trouve que c'est vraiment de l'autisme. C'est-à-dire qu'il est, c'est la fameuse distinction de Malraux qui distinguait deux types d'artistes, ceux qui cultivent leurs différences et ceux qui approfondissent leur communion. Moi, je suis plutôt du côté des artistes qui approfondissent leur communion, c'est Audiard, plutôt que des gens qui cultivent leurs différences. Quoique j'aime ceux qui cultivent leurs différences, sauf que lui est arrivé à un tel stade de différence qu'il ne parle plus qu'à lui-même. C'est-à-dire, c'est un cinéma, je le répète, autiste.
Oui, enfin, pardon, excuse-moi de te couper, mais l'autisme, c'est une maladie, hein. J'aime pas qu'on utilise appliquer ça à un film, je suis pas d'accord.
Bon, alors, je retire le mot autiste. C'est un film narcissique.
C'est une maladie trop grave pour qu'on puisse...
Où Noé se fait plaisir à ses quelques défenseurs et continue. Moi, j'ai trouvé le film, franchement, absolument insupportable. Mais insupportable.
Alors, Nicolas l'a aimé.
Non. alors que je suis j'étais au départ un défenseur de Noé et je trouvais qu'il a amené des choses vraiment passionnantes, qu'il avait une force dérangeante, tripante et même émouvante dans son cinéma. Et j'ai l'impression, lui qui aime beaucoup raconter les histoires à l'envers, comme on l'a vu dans la plupart de ses films, j'ai l'impression vraiment qu'il pousse le vice jusqu'à prendre sa carrière à l'envers. C'est-à-dire qu'il a commencé avec ses meilleurs films et au lieu de mûrir, il ne fait que régresser. Et moi là, ça fait deux films que il m'a lâché et que j'ai l'impression que dans celui-là, il met vraiment à plat tout son système.
T'as aimé Love, toi ?
Non, c'est. Alors pourtant, c'était celui que peut-être.
Qui a aimé Love ?
C'était peut-être celui que j'attendais
Love
le plus, parce que je suis assez obsédé. Mais et donc voilà, et je trouve que là, j'ai l'impression qu'il met à plat tout son système, qu'il ne reste plus que la puérilité, la vacuité d'une provocation un peu gratuite et complètement qui est devenue complètement stérile. Et je suis, je vous rejoins dans votre incompréhension et c'est ni drôle, c'est épuisant, c'est pas dérangeant non plus, c'est juste assez gratuit.
Bon, je crois qu'on a
c'est embarrassant. Quoi.
Ça y est.
Hein, mais le début est formidable. Et Sofia Boutella, qui a un charisme quand même dingue et qu'on aimerait revoir dans des bons films.
Climax de Gaspard Noé. Personne ici pour défendre ce film. Leave No Trace, ne pas laisser de traces de l'américaine Debra Granik, dont on n'avait plus de nouvelles depuis 2010. C'était Winter's Bone, un film qui était d'ailleurs aussi à la quinzaine des réalisateurs, avec Thomasine McKenzie, Ben Foster, Jeff Cobber. McKenzie a 15 ans, elle habite avec son père, qui est Ben Foster, ancien GI traumatisé, bien traumatisé quand même, hein, on sent qu'il vient de loin. Dans une forêt en bordure de Portland, dans l'Oregon, elle ne sait rien du monde moderne, jusqu'au jour le couple très fusionnel, très rousseauiste aussi, est soudain expulsé pour être accueilli dans une communauté rurale. Le père a désormais un petit boulot, sa fille une école, et les deux ont un vrai toit. Le film montre comment Tom va peu à peu se socialiser, se domestiquer, comme on pourrait le dire, d'un animal. Une histoire tirée d'un authentique fait divers. Et en fait, on n'est pas si loin, ce que je me disais à la fin, de Winter's Bone. On est chez cette réalisatrice, dans une vraie continuité, Michel.
Oui, moi j'aime énormément ce film, c'est-à-dire qu'il appartient d'abord à une tradition de l'Americana, c'est-à-dire de l'Amérique profonde, avec le retour du soldat, qui est un thème qui a été traité plusieurs fois, cet homme qui est traumatisé et qui décide de se couper du monde avec sa fille. Mais le film, c'est aussi le passage d'une adolescente à une femme, c'est-à-dire c'est une sorte d'éducation aussi d'un père qui voit sa fille devenir son propre père, enfin à cet homme, qui atteint une sorte de maturité dans un décor totalement à la Thoreau, c'est le fondamentalisme, c'est le goût des Américains pour la nature. On retrouve d'ailleurs des cinéastes semblables semblables aujourd'hui, comme Jeff Nichols, comme Terrence Malick, comme Chloé Zhao. Il y a toute une tradition. Puis alors, ce que je trouve également très intéressant, c'est que le film n'est pas manichéen. C'est-à-dire, ça, on pourrait opposer le Robinson d'aujourd'hui avec sa fille face à une société hostile. Pas du tout. On voit, il y a des phénomènes, des dispositifs de réinsertion. On les accueille, il y a la police vient les arrêter, mais pas du tout pour les mettre en prison, etc. Alors c'est dans l'Amérique de Trump, on voit qu'il y a une résistance d'une certaine façon des acteurs sociaux qui sont pas du tout négatifs. Donc tout cela rend le film complexe et en même temps d'une relative simplicité. C'est pas du tout un film de tape à l'œil, d'une extrême sensibilité où la nature est merveilleusement filmée.
Nicolas.
Oui, moi, je comprends Michel. Après, moi, je rejoins. C'est, je trouve, c'est un beau film assez pudique. Après, j'ai des petites réserves parce que il y a une approche.
Lesquelles alors
Non, mais Debra Granik, elle a une approche voilà, très behavioriste. Il y a quelque chose de très factuel chez elle, de pas aller justement trop dans l'émotion, de pas aller. Quand Michel parle de Jeff Nichols ou de Terrence Malick ou tous ces gens-là, moi, dans le film, il y a quelque chose d'assez dépassionné, d'un manque de. Il y a pas de lyrisme. Il y a quelque chose d'assez asséché qui, je trouve, sur la durée, finit par comprendre ce qu'elle veut raconter et j'ai pas vraiment de prise sur les personnages que je trouve le personnage du père qui est très mutique dont on ne saura pas grand chose et qui reste vraiment comme ça une présence.
Non, mais on sent qu'il y en a un gros sur la patate.
Voilà, il y en a un gros sur la patate. Elle est très bien, mais de la même manière il va pas non plus vraiment approfondir sa vérité quoi et voilà je trouve que c'est un joli film mais j'ai du mal à m'enthousiasmer de manière bon. Je trouvais que Winter's Bone était beaucoup plus rugueux, il y avait plus d'aspérité, il y avait quelque chose de beaucoup plus vivant. Après, ce que ça raconte des communautés de cette Amérique alternative, je trouve ça passionnant, mais je retrouve pas ce qui avait pu me faire un peu frémir dans le cinéma. Je pense que ça fait penser au cinéma américain des années 70, c'est indépendant, et je trouve que ça manque d'une personnalité qui fait que le film dépasse ce qu'il veut être. Quoi.
Jean-Marc.
Non, moi je trouve ça très beau et très émouvant. Je trouve justement qu'en se reposant très peu sur le dialogue, elle arrive à composer des personnages avec un sens du contraste, une finesse inouïe. Au début, on vit tout ce qui est les institutions, la société comme une force de censure très très forte. Et peu à peu, on est tellement avec le personnage principal que finalement, l'abus, il est plutôt du côté du père et personne n'est chargé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une précision, une délicatesse dans le dessin de tous les personnages qui est incroyablement délicat et fin. Et je trouve que c'est vraiment une cinéaste. C'est-à-dire que la manière dont elle filme la nature, la texture vraiment du monde, c'est par exemple, à mon avis, beaucoup plus impressionnant que dans le film Jacques Audiard. Et les deux films sont pas sans rapport parce que les deux films sont travaillés par
enfin, il y a moins de sang dans celui-là. Hein.
Bien sûr, mais il y a le même souvenir de la littérature utopiste du 19e siècle, le côté Walden, ce retour à la nature, et ce qu'elle en fait me semble beaucoup plus habité, incarné, qu'elle fait en plus pas le choix de la noirceur et de, contrairement à Audiard, et je trouve qu'elle a vraiment un sens de la direction d'acteurs, et notamment des jeunes filles, puisque son précédent film avait révélé Jennifer Lawrence, et là, la jeune actrice est vraiment stupéfiante.
Daniel, tu as eu ta période, d'ailleurs, retour à la nature, très très
oui,
forte.
Oui, mais j'en suis revenu quand même.
Si, non, mais tu étais très longtemps à poil dans la forêt, enfin, c'était très...
Ah, ben non, sauf quand il faisait froid.
Oui, mais enfin...
Non, c'est très touchant, je suis absolument éblouie par la jeune comédienne.
Elle est formidable.
Thomasine McKenzie.
McKenzie.
Qui a une... Elle est magique, elle est présente, elle a une variété de jeux et une finesse de jeu.
Et puis elle est moins attendue que Ben Foster
voilà.
Dans son
rôle. Alors j'ai effectivement un petit problème avec Ben Foster, qui est mon idole depuis sa longue prestation dans ma série culte Six Feet Under. Mais là, d'accord, on sait qu'il est mort à l'intérieur, mais il est mort tout court. C'est-à-dire que il est très raccord avec la nature. C'est une bûche, voilà. Bon, donc, effectivement, ça c'est mon problème. Mais il y a des séquences absolument merveilleuse, mais par exemple le largage de sapin de Noël par hélicoptère, on est dans Apocalypse Now tout à coup. Il y a vraiment une invention de cinéma qui est assez bluffante, et là effectivement c'est le périple est beau et touchant, et la fin est assez magnifique.
Leave Not West de Debra Granik, pas de réaction. Allez, on va aller vite parce que il nous reste peu de temps. Je voulais qu'on évoque Le Poulain de l'auteur de BD Mathieu Sapin, à qui on doit, vous savez, un album sur Depardieu, un autre sur Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, du temps de François Hollande, un sujet qui lui a inspiré ce film avec Finnegan Oldfield, Alexandra Lamy, Gilles Cohen, Brigitte Rouen, Philippe Catherine. Est-ce qu'il y a un film sans Philippe Catherine? Pour l'instant, je crois pas.
Tant mieux.
Et Finnegan
on ne regrette pas.
C'est Arnaud. Ben, on le verra dans Le Grand Bain. Il est incroyable dans Le Grand Bain.
Ah, bah, c'est.
Finnegan Oldfield, c'est donc Arnaud Jaurès, un prof de 25 ans qui n'a rien à voir avec. C'est le gimmick un peu du film, l'illustre Jaurès. Il débute par hasard en politique. Il intègre l'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle. Il devient l'assistant de la directrice de communication Alexandra Lamy, qui va l'initier au métier, etc., etc. Bon, il va gravir les échelons du pouvoir. Rien de neuf dans le scénario. Est-ce que ce poulain vous a plu, Nicolas?
C'est-à-dire que de tous les bédéastes qui sont arrivés au cinéma, je pense que Mathieu Sapin est celui qui montre le moins de personnalité, et que le film est une petite satire politique qui, dans sa forme, est assez téléfilmesque. Après, faut lui reconnaître une écriture, des bonnes, il y a des bons dialogues, des bonnes répliques. Il a une connaissance de l'univers dont il parle, donc c'est un peu un best-of de tout ce qu'on peut imaginer sur les coulisses d'une présidentielle.
Enfin, ça a été raconté partout.
Voilà. Il y a rien de neuf. Après, c'est une bonne petite compilation. Lamy est très bien dans son rôle. Après, c'est vraiment un film qui démarre un peu laborieusement, un peu il met du temps à se mettre en place. Et bon, voilà, c'est
pour votre BD, il y avait plus dans le Quai d'Orsay de Tavernier,
oui, d'une certaine manière. Et puis il y avait un peu plus d'ambition de
mise dans en scène. Ce poulain, et Dieu sait pourtant que j'aime les chevaux, Michel.
Non, c'est très décevant. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que la bande dessinée, finalement, est si proche que ça du cinéma? Parce que on a souvent comparé les deux arts.
Non.
Narratif, si, visuel, narratif, si.
Oui,
Et en fait, je crois que c'est très différent. Un auteur de bande dessinée n'est pas du tout automatiquement mieux préparé au cinéma qu'un auteur de théâtre ou un romancier. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu dans ce film, c'est que on a vu beaucoup de documentaires sur des campagnes électorales qui nous en apprenaient infiniment plus que cette fiction. Que cette fiction, d'autre part, ne comporte pratiquement pas un seul débat d'idées. Ça devient même un côté vaudeville, un peu, au bout d'un certain temps, entre le jeune aspirant, l'ascension d'un néophyte, et puis la femme qui pilote cette campagne électorale. Donc, je trouve le film vraiment d'une assez grande banalité et en même temps qui sert la soupe tout de même aux extrêmes, c'est-à-dire que comme les deux candidats qui sont opposés, c'est tout de même des candidats de partis gauche-droite mais centristes plutôt, et ce qu'on nous dit c'est que c'est complètement corrompu, ces gens se retournent leur veste sans arrêt, etc. Donc c'est un discours...
Mais ce qui n'est pas le cas du tout, ils ont jamais...
Il va se retirer pour son adversaire. Donc tout est truqué et ça c'est vraiment, ça alimente, excusez-moi, le fascisme.
Sans aller jusque-là. Non, je trouve qu'il y a quelque chose. Le film est amusant dans le détail, mais finalement un peu déprimant sur le fond parce que il épingle en fait les médias qui voient tout par le petit bout de la lorgnette, la vacuité des ambitions des hommes politiques. Mais finalement, il s'en satisfait. Ce petit monde de cynisme est peint finalement avec beaucoup de tendresse, et le film ne dessine aucun horizon à part ce désir de réussite personnelle et ce jeu de la manipulation de l'image. Le film est vraiment a finalement une vision très très faible du politique.
D'autant qu'aucun de vous ne dit quand même que c'est une image de téléfilm de chaîne régionale. Enfin,
oui, par moment justement, il essaie de se réfugier sur la BD en griffonnant sur les plans. Par moment, il y a des espèces d'illustration graphique sur les images. C'est assez mignon, mais on sent que du coup, il revient vers ce qu'il savait faire parce qu'il n'arrive pas vraiment à traduire en mise en scène de cinéma ce qu'est son univers graphique.
Daniel.
Alors bon, c'est pas très 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 intéressant. Je trouve vraiment qu'Alexandra Lamy s'en sort vraiment bien.
Elle fait le job et elle est
pimpante. Son surnom dans le film c'est Frigidaire, donc elle est froide. Elle est bon, très bien. Mais alors il y a un truc, c'est que je commence à en avoir assez des films où l'action ne progresse que par la sonnerie du portable. Tout se passe un coup de fil. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une réunion. Très bien, pouf.
C'est la réalité.
C'est la réalité, mais enfin, je vais pas au cinéma pour entendre sonner le portable.
Le poulain, c'est donc Mathieu Sapin. Rapidement aussi, La Nonne, film d'horreur réalisé par l'Américain Corinne Hardy, qui est le cinquième film d'un cycle. Voilà, on est en 52, une jeune religieuse se suicide dans son monastère. Il faut dire qu'on la comprend. Le Vatican envoie sur place un prêtre et une sœur pour enquêter, et ils vont affronter une force bien sûr maléfique. Jean-Marc ?
Alors le film est vraiment complètement nul, mais l'expérience de sa projection, moi je l'ai vu dans une salle au centre de Paris remplie d'adolescents, vraiment la salle était pleine à craquer, qui vraiment regardaient le film d'un œil, qui s'invectivaient, qui parlaient, qui rigolaient, et certains se sont battus dans la salle. C'était une espèce de happening incroyable, et j'ai l'impression que... Elle était au hall, mais je crois que ça se passe un peu partout comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché de films d'horreur qui me semble presque délibérément nul pour faire rire les gamins qui mangent du pop-corn en s'éclatant, quoi. Donc, je conseille malgré tout de voir le film pour le spectacle qui est dans la salle.
Il faut aller dans un multiplex, du coup.
Voilà. Daniel, t'as eu ta période monastère roumain, toi aussi, hein.
Bien sûr, bah, évidemment, bon, bah, alors. Non. C'est quand même un nanar de très haut vol, de très très haut vol.
C'est un nanar XXL.
Ah, ça, alors vraiment, alors les nonnes qui crachent le sang, le mec qu'on enterre vivant, mais enterré, hein, avec le couvercle fermé, il s'en sort très bien. Alors le prêtre en question, qui s'appelle Damien Bichir, il a été Fidel Castro dans le Che de Soderbergh.
Ça m'a pas frappé.
Ben moi non plus, mais enfin bon, j'ai regardé. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est pris de fou rire. Le démon est parmi nous, mais ça devient des opilins.
Michel ?
Oui, je pense que dans 30 ans, il y aura un film nostalgique de ce genre de navet, où on regrettera qu'on ne fait plus des films comme ça. Il sera programmé à la Cinémathèque.
Non, la nonne est une tête.
Non, je crois que s'il faut voir une nonne, il faut aller revoir La religieuse de Rivette, qui sort au même moment. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que le film a tout de même rapporté aux États-Unis en un week-end, $54 millions. C'est un succès phénoménal, parce que on pourrait dire c'est un nanar qui sort au midi minuit comme avant dans les minuit fantastiques où on sortait parfois des chefs-d'œuvre d'ailleurs là-bas comme Le Masque du Démon.
Oui.
Non, mais là c'est vraiment le nanar qui est un succès phénoménal mondial. La France arrive peut-être en dernier pour recueillir les restes.
Nicolas n'y est pas
allé. Je regrette de ne pas l'avoir vu.
Voilà, La Nonne donc de Corinne Hardy et une petite poignée de minutes pour Fortuna, un film en noir et blanc, un beau noir et blanc, format carré. De ce Suisse qui s'appelle Germinal Rao, qui a reçu l'Ours de Cristal à la dernière Berlinade. Et Fortuna, c'est plutôt un Fortuna, une jeune éthiopienne de 14 ans, qui est jouée par Kidiste Siyoum Beza, et qui est recueillie avec d'autres réfugiés, parmi lesquels un Africain plus âgé dont elle tombe amoureuse, dans un monastère catholique des Alpes suisses, plus précisément, Daniel, l'hospice du Simplon, où tu as été à une époque, gouverné par le prieur Bruno Gantz. Et là, Fortuna, bah, elle aide à nourrir les bêtes, elle dialogue avec ce prieur qui est, faut dire, d'une humanité, une sorte de modèle d'humanisme, et qui va finir par avouer son secret qu'on ne va pas raconter. C'est beau, c'est sensible, c'est un peu trop écrit à mon goût, c'est très enneigé, comme toujours, un trop de neige, ça finit par être un peu étouffant, très spirituel, au sens, bien sûr, du ciel, hein. On est d'ailleurs entre ciel et terre. Jean-Marc, pas vu, rapidement, Daniel?
Rapidement. Bon, c'est un sujet quand même original pour traiter le drame des migrants. Et ça, on est touché, et la jeune fille est vraiment touchante. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu effectivement...
Attention, c'est 1h50. Hein.
Oui, c'est long. Surtout que dès qu'elle va pas bien, et elle a toutes les raisons de ne pas aller bien, elle s'en va dans la neige, elle court dans la neige, et curieusement, on la rattrape toujours, et on la ramène au monastère. Bon, puis elle va pas bien, elle retourne dans la neige. Bon, on a l'impression que c'est quand même très répétitif.
Ces moines sont d'ailleurs... Voilà. Sérieusement, assez merveilleux avec elle. Hein.
Oui, surtout Bruno Gantz, qui a toute la charité chrétienne en lui, et qui est du bon côté de la foi, parce que quelquefois, il y en a qui sont moins bien. Mais moi, j'ai été touchée d'abord par la jeune fille qui a un visage magnifique.
Puis ça repose de la nonne de Harding. Hein.
T'as raison, c'est pas la même, du tout.
Michel ?
Oui, Bruno Gantz, d'ailleurs, se demande si leur vœu de silence et de pauvreté et de recueillement ne va pas être troublé par l'afflux de réfugiés. Donc, on pose le problème des réfugiés. Non, je trouve que c'est un très bon antidote à La Nonne. C'est-à-dire que La Nonne, ce n'est que spectacle d'horreur, etc. Et là, il y a une sorte de grisaille un petit peu poseuse, je trouve.
On sent le film un peu trop poseur.
Je fais de l'art, etc.
On sent qu'il, de temps en temps, il lorgne du côté du Ida de Polikowski, un peu,
de manière un peu insistante.
Mais le film est très respectable. Il y aura dans toutes les congrégations un public pour y aller.
Nicolas?
Je suis à peu près d'accord. Moi, au début, j'ai vraiment peur du côté de l'imagerie très suspicienne, des plans comme ça, un peu à la Dreyer, mais avec un côté plus photographe moderne. Germinal Roux est photographe à l'origine, et on sent vraiment cet esthétisme. Et en même temps, une solennité comme ça, un peu académique, qui se retrouve, je trouve, d'ailleurs, surtout dans les scènes avec les prêtres, où il y a un didactisme, c'est quand même très, très, un peu lourdement amené. Dès qu'il y a du dialogue, c'est assez lourd. Après, j'avoue.
Enfin, ce sont des moines, derrière, la plupart en civil, hein. Ils sont pas du tout, on n'est pas dans un monastère fermé.
Et après, j'avoue que le personnage de Fortuna et cette actrice, je la trouve superbement filmée. Elle a une sensualité. Les scènes de cauchemar sont très très belles, et que il arrive à avoir une forme de tendresse et de sensualité pour ce personnage, qui pour moi sont la plus belle partie du film.
C'est pour ça que je redonne son nom, parce que évidemment il était inconnu. C'est Kidiste Siyoum Beza, qui joue donc le rôle de cette toute jeune Éthiopienne dans Fortuna, le film du Suisse Germinal Rao. Un conseil pour terminer cette émission, on va commencer avec Daniel.
Alors c'est un livre.
Oui.
Federico Fellini,
le
métier de cinéaste d'une journaliste qui a absolument suivi Fellini, a fait des myriades d'entretiens. Le film est
dont avec toi, dans mon souvenir.
Et c'est traduit très bien par René Cicatti. Oui, voilà. Et elle a choisi les entretiens métier par métier. Ça, c'est vraiment une très, très bonne idée, parce qu'on a les producteurs, on sait que les rapports de Fellini avec les producteurs n'étaient pas formidables, et les acteurs, et il y a la première rencontre, évidemment, tout de suite, Marcello Mastroianni. Alors, pour la Dolce Vita, il a été choisi, mais seulement pour embêter Dino De Laurentiis, qui voulait Paul Newman pour jouer un peu Paparazzo de la Via Veneto, ça allait pas du tout, et donc, il y avait le jeune Marcello qui était là. Donc c'est très 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 vivant et
plein d'anecdotes.
Plein d'anecdotes et magnifiquement illustré, et c'est au seuil.
Au seuil. Le conseil de Jean-Marc.
Alors moi, c'est une œuvre qui ne sort pas en salle, pour filer le débat
Netflix.
De l'émission. Non, pas sur Netflix, sur Arte. C'est la mini-série de Bruno Dumont, qui est la suite, trois ans après, de Petit Quinquin. On retrouve les mêmes personnages de Le Temps d'âme de flic, l'adolescent qui a grandi. Et si la première saison était une sorte de pastiche extrêmement malicieux des séries policières, là, c'est plutôt les séries de science-fiction et d'invasion. C'est un peu Stranger Things, mais avec l'univers de Bruno Dumont. Et en même temps, c'est vraiment une radiographie assez saisissante de toutes les tensions qui traversent la société française contemporaine. Voilà, c'est très très beau.
Mon conseil, c'est un CD, c'est chez Erato, tout simplement intitulé Cinéma, et c'est le grand violoniste Renaud Capuçon, par ailleurs totalement fan de cinéma, qui réinterprète avec le Philharmonique de Bruxelles des musiques de films, évidemment, qu'on connaît tous, signées Ennio Morricone, Michel Legrand, Yann Tiersen, Alexandre Desplat ou Vladimir Cosma. Et pour moi, le sommet de l'album, c'est bien sûr la musique de Georges Delerue pour Le Mépris de Godard, qui est absolument, dans la version Capuçon, merveilleuse. Et je signale à nos auditeurs que pour cet album, d'ailleurs, Capuçon sera en concert unique à l'Olympia le 14 octobre. Le conseil de Michel.
Alors, c'est pour le public parisien, je m'en excuse, ou de la région parisienne. Le Forum des images, jusqu'au 7 octobre, fête ses 30 ans avec 30 films et 30 réalisateurs. 30 films, 30 réalisateurs qui viendront tous parler de leurs films. Ça va de Mathieu Amalric à Vincent Bonello, Laurent Cantet, Christophe Honoré, Alexandre Jodorowsky, Noémie Lvovsky, Michel Oslo, Nicolas Philibert, Bruno Podalydès. Bon, ils vont tous venir et ils vont parler avec le public sur leurs films jusqu'au 7 octobre. Il faut consulter les programmes.
Nicolas.
Et moi, c'est un livre, c'est une autobiographie de très particulière, c'est consacré à David Lynch. Ça s'appelle L'espace du rêve, qui paraît chez Lattès. Et c'est très particulier parce qu'en fait, c'est une autobiographie à deux voix. On pourrait dire des mémoires, mais comme il y a à la fois Christine McKenna, qui est une journaliste et commissaire d'art, qui a rencontré tout l'entourage et tous les collaborateurs de David Lynch tout au long de sa carrière et de sa vie, et qui relate son histoire. Et après chacun de ces chapitres, Lynch, à son tour, a pris connaissance de ce qu'a écrit McKenna et rajoute sa patte, complète, digresse,
contredit
parfois. Et c'est une expérience déjà de lecture assez passionnante. Lynch a un sens très particulier de l'anecdote qui parfois on ne sait pas quand elle se finit, et c'est au fur et à mesure qu'on comprend où il voulait en venir. Et surtout, c'est passionnant parce qu'on se rend compte, on voit d'où viennent toutes les images de ces films fantasmatiques qui viennent souvent du vécu de Lynch. Et c'est assez, c'est un objet assez passionnant.
C'est l'objet Lynch, livre très lynchien, et c'est chez Lattès. Merci Daniel Eman, Jean-Marc Lalanne, Michel Simon, Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Philippe Mercher, Stéphane Touvenin, Emmanuel Armingue. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque aura lieu le jeudi 4 octobre au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de théâtre à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.